Né 5 jours après Thérèse de Lisieux en janvier 73, Charles Péguy figure aux commémorations officielles, certes, sauf qu'on parle peu de lui. Alors c'est vrai qu'on l'avait beaucoup fait en 2014. Il n'est pas enseigné dans l'éducation nationale, il demeure cloîtré quand même derrière les murs de l'opprobre, alors que la Sainte est devenue une star hyper tendance malgré sa dentelle d'Alençon. On ne va pas faire une comparaison entre Péguy et Thérèse de Lisieux, ce n'est pas l'objet de cette discussion, mais Charles Péguy est une référence pour penser le monde moderne, c'est Alain Finkielkraut qui le dit, et on sait que Benoît Chantre avait écrit un ouvrage sur lui, Péguy, point final, aux éditions du Félin. Je me demande s'il n'était pas venu en parler. Puis Charles Péguy, guerre de 14, je le disais à l'instant, c'est donc aussi les fracas de la Première Guerre mondiale et des fracas, il y en a aussi en Europe avec la guerre en Ukraine. Et là, il y a un autre penseur qui peut nous aider, c'est bien sûr René Girard. Alors René Girard, je fais le lien avec Benoît Chantre. René Girard est mort en 2015, mais il y a une association qui s'appelle l'Association Recherche Mimétique, dont il fut président d'honneur. Et puis, il y a une biographie qui va sortir sur René Girard à la fin de l'année pour le centenaire de sa naissance. Et c'est Benoît Chantre qui va aussi la signer. Bonjour Benoît Chantre.
Bonjour.
Vous êtes éditeur, essayiste. On va commencer peut-être par Charles Péguy, parce que vous, ça s'appelait Péguy, point final. Point final, on a le sentiment, même s'il figure, donc je le disais, aux commémorations officielles cette année, on n'en parle pas beaucoup. Il y a une ambiguïté sur ce personnage.
Péguy, point final, c'était un titre polysémique qui interrogeait la mort de Péguy, ce point final qu'il a posé à son heure et à sa vie lorsqu'il a décidé de partir au front. Péguy, point final, c'était aussi mettre un point final à des querelles inutiles et des querelles stériles autour de cette figure fondamentale de la pensée française et de l'histoire française.
Mais ces querelles n'ont pas été surmontées.
J'ai envie de dire que si, d'une certaine manière, puisque le centenaire 2014 a permis un certain nombre de mises au point, de publications. Il y a eu un très gros colloque à Normale Sup et à la Cato que j'avais monté avec Frédéric Worms et Camille Riquier, où on a fait intervenir tous les témoins les plus discordants et les plus passionnés de cette œuvre et de cette vie. Et un consensus quand même formidable s'était établi à l'époque. La bataille est gagnée. Et j'ai envie de dire du côté de Péguy, ici, il est maintenant sorti de bien des ambiguïtés où on voulait le maintenir.
Mais on ne l'enseigne pas.
Alors oui, là vous avez raison. Là, vous avez raison. On ne l'enseigne pas. Bah, il mériterait d'être au programme de l'agrégation. Il mériterait d'être davantage présent dans les manuels de littérature pour sa prose. On connaît les poèmes sur Notre-Dame de Chartres, bien sûr. On connaît un petit peu ses Jeanne d'Arc. On connaît encore très très mal sa prose, ses admirables dialogues de l'histoire, notamment les dernières proses où il sort du bois pour défendre Bergson dans ses deux notes conjointes. C'est une prose éblouissante qui est magnifique. Qui intéresse de plus en plus les universitaires quand même. Il y a des colloques assez savants.
Il y a des thèses, j'ai vu aussi, sur le site de l'amitié Charles Péguy.
Il y a maintenant, Péguy discernait les deux types d'autorités, les autorités de commandement et les autorités de compétence. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une ère de compétence pour aborder cette œuvre. Elle est enfin commentée comme elle mérite de l'être. Donc moi, je suis plus positif que vous, a priori.
On sait que Péguy est mort d'une balle dans le front, mais est-ce que le pire, ce n'est pas qu'il a été poignardé dans le dos, finalement, après sa mort, en étant assimilé au nationalisme exclusif?
Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a une récupération de Péguy dans les années 30 qui est tout à fait regrettable. Heureusement, la résistance et de Montmichelet en tête s'en est emparée très très vite. La revue Esprit, animée par l'esprit des Cahiers de la Quinzaine, quand elle prend le maquis, recourt beaucoup à Péguy. Il va sortir assez indemne, même totalement indemne de cette période noire de l'occupation, puisqu'on va le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un penseur très conséquent de la résistance, d'une forme de résistance à la brutalité du monde moderne.
En quoi nous parle-t-il aujourd'hui? En un mot, Benoît Chantre, si vous deviez en parler à des élèves qui ne savent rien de Charles Péguy, quand Alain Finkielkraut dit « c'est une référence pour penser le monde moderne », qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que être anti-moderne, c'est pas nécessairement être réactionnaire. les arguments depuis 30-40 ans vont dérapent vite dans ce sens-là. La pensée anti-moderne, comme le dit à juste titre Antoine Compagnon dans le livre qu'il a consacré entre autres à Péguy, ça n'est pas nécessairement une pensée réactionnaire. On peut être anti-moderne, c'est-à-dire résister à un certain cours du temps, à un certain cours des choses, en l'occurrence au à la montée d'une équivalence généralisée, disait Peggy, c'est-à-dire le règne de l'argent, c'est-à-dire...
Tout se vaut.
Oui, le tout se vaut, absolument, pour tout simplement résister à cette équivalence en disant que, par exemple, l'égalité n'est pas l'équivalence et que l'identité n'est pas l'égalité qui n'est pas l'équivalence. Voilà un penseur profond qui, partant d'égalitarisme, a fait des distinguos absolument fondamentaux. L'équivalence uniformise tout, indifférencie tout, en quelque sorte. L'égalité, c'est tout à fait différent et l'identité, c'est encore autre chose.
Donc il y a une précision sémantique
absolument
qui s'impose quand on parle de ces questions-là. Et Peggy, malheureusement pour lui, a fait l'objet, même s'il y a des travaux, évidemment ceux que vous avez mentionnés, qui ont beaucoup contribué à le sortir de ce goulag intellectuel. Peggy a beaucoup fait pour penser en fait notre monde et aussi le penser à travers, quand on dit, ce sera mon dernier point sur Peggy, puis on passera à Clausewitz après, penser les noces du charnel et du spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quand il célèbre les noces du charnel et du spirituel, est-ce qu'il nous émerveille ? Est-ce qu'il y a une dimension d'émerveillement spirituel chez Peggy ?
Il n'y a pas de chez Peggy d'émerveillement, de lyrisme excessif de ce côté-là. Il y a un réalisme très profond, je dirais, pas un prosaïsme, mais un réalisme très profond de son inspiration.
Donc, quand il y a un côté romantique quand même, non?
Pas trop. Une résistance au romantisme avec la relance d'un vieux couplage classique et romantique qui se définissait plutôt comme un classique face aux romantiques qui, pour eux, sont ceux qui font les malins. Les romantiques sont ceux qui font les malins, sont ceux qui, dans le monde moderne, se taillent des places honorables, sont ceux qui sont dans la rhétorique et non pas dans la pensée profonde de la métaphore, qui est pour lui l'exigence de tout poète. Les classiques, au sens où Peggy l'entendait, sont ceux qui résistent à cette tendance du monde moderne.
Alors, le monde moderne, on le voit à la couverture, par exemple, hein, chez Grasset, on voit une image épouvantable, hein, c'est celle, bien sûr, de la bombe nucléaire. Achevez Clausewitz, c'est René Girard, et vous-même, donc, qui allez nous en parler à présent. Pourquoi la figure de... Alors, il y a deux choses. Il y a René Girard, la biographie, mais ça, on en dira un mot peut-être quand elle sortira à ce moment-là. Parce que c'est quand même 10 ans de travail. Hein.
Oui, absolument. Oui, c'est un gros travail que je termine.
Voilà. Et puis, Clausewitz, en quoi aujourd'hui Clausewitz, sachant que nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre, Benoît Chant.
Absolument. Bon.
Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, le « nous sommes en guerre »
Qu'il faut arrêter de fonctionner comme nous avons fonctionné depuis des décennies, dans le déni du fait militaire, dans le déni de la guerre et de sa réalité. Nous avons vécu dans cette utopie-là. Nous avons perdu une culture militaire. Il ne s'agit pas d'être belliciste, mais d'attester ce fait-là. Peggy, qui était antimilitariste au moment de l'affaire Dreyfus, n'a jamais manqué ses classes. Il a toujours été un citoyen particulièrement docile parce qu'il ne déniait pas la réalité du fait militaire. Le grand drame d'une certaine modernité, c'est d'avoir occulté tout cela. Il y a des raisons à cela, bien sûr. Il y a l'humiliation profonde de la défaite pour les Français, la guerre d'Indochine, la déroute algérienne. La culture militaire a été complètement engloutie. Or, aujourd'hui, elle revient avec une brutalité...
Mais c'est le cas aussi en Allemagne.
C'est
toute l'Europe qui a été fracassée sur ces guerres.
Bien sûr,
en fait.
Bien sûr. Et Clausewitz, d'une certaine manière, est le bouc émissaire idéal de cela. C'est pour ça que, dans le sillage de certains commentateurs anglais des années 20, comme Little Heart, il va être le responsable de Verdun. C'est celui qui a prôné la guerre à outrance, donc c'est celui qui est à l'origine de tous nos maux. Et on va cesser de le lire, alors que Peggy, comme tous les gens qui faisaient leur classe, lisait attentivement Clausewitz. On avait entendu parler très précisément, et je vois, lui, un modèle cornélien contre le modèle allemand prussien, qui était le modèle clausewitzien. Il se renseignait très précisément sur ces choses-là. Clausewitz disparaît complètement des radars. C'est les Américains qui vont le lire dans l'après-guerre. Et il revient dans la réflexion de Raymond Aron en 76, un très grand livre, Penser la guerre, et enfin en 2007 avec le livre de Girard qui est un petit peu le Clausewitz de l'après 11 septembre.
Et pourquoi s'est-il intéressé à Clausewitz ?
Précisément parce qu'après le 11 septembre, il se heurte à cette réalité du terrorisme et que lui qui a travaillé sa vie durant sur la violence, sur le sacrifice, ne comprend pas ce qui se passe. Il est non-violent, fondamentalement, Girard, mais il a une vraie culture militaire, comme Proust, qu'il admirait par-dessus tout. Il ne comprend pas du tout ce qui se passe avec l'acte djihadiste. Il comprend ce que c'est que de donner sa vie pour sauver d'autres vies. Mais se tuer pour démultiplier la mort autour de soi est un geste dont il ne comprend pas les motifs. Et c'est parce qu'il commence à réfléchir là-dessus, au devenir des guerres modernes, dites guerres de ressentiment, qu'il découvre en 2003 une édition américaine de Clausewitz et qu'il commence à s'intéresser à ce concept central chez Clausewitz de monter aux extrêmes. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler ensemble.
Alors la montée aux extrêmes, est-ce qu'on assiste aujourd'hui, dans le cas ukrainien, à une montée aux extrêmes ?
Tout laisse à croire que non, dans la mesure où le front s'est solidifié des deux côtés du Dniepr. Nous sommes maintenant dans une guerre de position. Cette guerre qui a surpris le monde entier était une guerre conventionnelle, qui maintenant se bloque un peu à la Verdun peut ou aller vers une désescalade. Tout est possible. Les hypothèses optimistes peuvent être envisagées, ou effectivement monter aux extrêmes, c'est-à-dire que le conflit étant bloqué, la guerre manifestement allant durer, elle peut s'exaspérer. Et là, une guerre qui s'exacerbe, c'est un contrôle du politique sur le fait guerrier qui finit par lâcher. Et donc, ce n'est plus la continuation, la guerre n'est plus la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est la politique qui se met à courir derrière la guerre.
La fameuse phrase donc, de Clausewitz, précisément. Est-ce qu'on n'est pas, puisqu'on parle de Peggy aussi, est-ce qu'on n'est pas, Benoît Chantre, dans la répétition de la guerre de 14, finalement, quand Ludendorff essaie de prendre Paris et qu'il échoue, il sait, les Allemands savent qu'ils ont, à ce moment-là, perdu la guerre, d'une certaine façon. Est-ce que les Russes n'auraient pas dû tout miser sur Kiev? Si je me mets du côté russe, hein, est-ce qu'ils n'auraient pas dû tout miser pour prendre la capitale, foncer vers la capitale et la prendre? Et d'une certaine une guerre éclair, un peu comme les Allemands voulaient faire en 14. Et le fait qu'il n'ait pas réussi ou qu'il n'ait pas voulu, eh bien, on est condamné à l'enlisement et finalement à la guerre de position que vous avez décrite.
Ça, l'histoire nous dira plus précisément ce qui s'est passé. On est encore très impuissant. Il nous manque beaucoup de renseignements. C'est un échec tellement colossal.
Mais ils n'ont pas voulu prendre les villes. Ils n'ont pas voulu prendre Kiev, ça manifestement.
C'est clair, oui, c'est clair. Pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas forcément d'opinion plus éclairée que celle qu'on entend aujourd'hui, puisqu'on est un petit peu, indécis. C'est ça. Il y a un tel contraste entre la démesure des forces de l'arsenal russe d'un côté et l'impéritie sur le terrain d'une armée qui est incapable de gagner des batailles décisives au sens de Clausewitz, qu'on est pour l'instant très interdit. Et les contrastes sont énormes. On est face à nouveau à une armée qui est incapable de faire la guerre. C'est à nouveau l'Afghanistan qui recommence. Et paradoxalement, c'est aussi 2000 missiles tactiques à tête nucléaire, alors que l'OTAN n'en aligne qu'une centaine.
Il y a un tel déséquilibre.
C'est impressionnant.
Mais les États-Unis cumulent le budget militaire américain, c'est le budget militaire cumulé de 15 pays qu'il y a derrière eux.
Oui, oui.
Donc normalement, les Américains devraient quand même supplanter la Russie qui a le PIB de l'Italie.
Sur le terrain, c'est-à-dire sur ce théâtre des opérations qui est en train de redevenir l'Europe, il y a une infériorité tactique des forces de l'OTAN par rapport à l'arsenal russe. C'est ça qui est tout à fait inquiétant. J'en parlais avec Jean-Pierre Dupuy, que je voyais hier, là, qui revient des États-Unis, où il a des discussions avec des spécialistes de la stratégie américaine qui sont totalement tétanisés par ce qui est en train de se passer. Il faut quand même être conscient de ça. On n'a jamais frôlé d'aussi près la catastrophe nucléaire. 90% de l'armement nucléaire est aux mains des États-Unis et de la Russie. Et la supériorité tactique sur le théâtre européen de la Russie est écrasante. Donc effectivement, les choses peuvent aller vers une désescalade et vers des négociations. Ça serait l'hypothèse optimiste. Malheureusement, il semble que le combat soit engagé de manière assez irréversible. Et donc le pire peut advenir.
La thèse selon laquelle les Américains ont piégé, en fait, par le biais du Maïdan, on va pas refaire toute l'histoire de 2014, mais le fait qu'en fait les Russes soient tombés dans le piège américain en intervenant assez brutalement, de manière comme en Afghanistan par exemple, enfin cela dit brutalement, mais sans commune mesure avec ce qu'ils avaient fait par exemple à Prague et à Budapest, où là aussi ils avaient pris des villes. Mm-hmm. Donc ils ont quand même une rupture par rapport à la manière dont l'Union soviétique intervenait. Est-ce que la Russie est tombée finalement dans le piège tendu par les Américains avec la révolution du Maïdan? Quel est votre avis? Il y a des interprétations différentes de cette guerre. On se dit évidemment qu'il y a une agression russe qui est incontestable sur un État souverain, mais l'antériorité de la guerre, elle remonte quand même à l'année 2014. Elle remonte avec une fracture au sein de l'Ukraine qui a été aussi entretenue par par les services polonais, par l'Amérique, etc.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut, et là, il faut, dans un raisonnement que...
Ça n'a pas commencé il y a un an.
Bien sûr, dans un raisonnement que nous élaborons en direct, puisque l'histoire est en train de se faire et qu'on on est loin d'avoir la capacité de prendre le recul qu'il faudrait. Il n'y a pas... toujours un seul agresseur dans un conflit. Chacun est agresseur et agressé. Faire de Poutine un monstre absolu, en refaire un bouc émissaire à nouveau, puisqu'on parle de Clausewitz et de Girard, serait manquer la réalité de ce conflit. Bien sûr, il y a une, on répond toujours à une agression. C'est toujours, mais il y a quand même dans la décision de Poutine quelque chose qui paraît unilatéral. Qu'il y ait eu des pressions de l'OTAN, c'est une évidence. Que l'OTAN et la politique américaine étaient était prudente, c'est aussi une évidence, puisque finalement la porte de l'OTAN n'a pas été ouverte à la Géorgie, à l'Ukraine. Il y a eu quand même beaucoup de prudence politique dans cette affaire. On ne peut pas dire qu'il y a eu des agressions réelles de la part du camp occidental. Il semble quand même qu'il y ait eu à un moment donné une décision unilatérale. Alors méfions-nous, ne faisons pas forcément de Poutine l'unique agresseur. Encore une fois, replaçons le contexte dans son, le, cette agression dans un contexte plus général de guerre. Larvée. La violence, comme disait très justement Girard, n'est jamais perdue pour la violence. Donc il y a toujours une accumulation de la violence qui pèse sur nous de plus en plus, comme un, une épée de Damoclès. Mais il semble quand même qu'il y ait là eu, chez Poutine, le sentiment qu'il pouvait y aller impunément, qu'il allait pouvoir récupérer son bien. Alors que manifestement, ce qu'on découvre aussi dans ce conflit, pour qu'il y ait un conflit ou une guerre totale, il faut que le pays, le peuple soit totalement derrière ses généraux et ses politiques. Il semble qu'il y ait quand même, même si la propagande est énorme en Russie, une résistance de la société civile là-bas. Et puis surtout, ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est l'extraordinaire résilience du peuple ukrainien et sa capacité, alors qu'il était... dans un stade de décomposition politique assez avancé tout de même, a opéré un sursaut héroïque, évident. Enfin, c'est tout à fait impressionnant. Des questions aussi vieilles que les questions qu'on évoquait tout à l'heure avec Peggy sont en train de ressurgir, c'est-à-dire les questions de la résistance et...
La combativité des Cosaques.
La combativité des Cosaques, absolument.
Benoît Chantre, est-ce que Karl von Clausewitz avait pensé l'aspect économique d'une guerre ? Par exemple, si on regarde la guerre, cette guerre d'un point de vue énergétique, on a vu qu'il y a, il y a un aspect important, très important, entre les liens entre la Russie et l'Allemagne du point de vue de l'approvisionnement gazier, que les Américains préféreraient qu'on prenne leur gaz de schiste, etc. Il y a un arrière-fond énergétique important. Est-ce qu'à l'époque de Clausewitz, cette dimension-là existait dans la guerre ? Ou est-ce ça... qu'on était sur du Kriegsspiel
voilà. c'était plutôt cette tendance-là, puisque d'abord, les choses vont très très vite. Clausewitz est un militaire, et il y a le traumatisme de l'événement napoléonien, en quelque sorte. Il y a à la fois l'admiration infinie que les Prussiens, partageant avec les Français une culture de guerre, quand même, ont pour ce stratège incroyable qu'est Napoléon. Il y a l'humiliation que l'Allemagne mosaïque de Landgravia et de duché éclaté peut subir devant l'impérialisme français, et la nécessité pour Clausewitz de répondre à l'agression française. Donc il offre à son pays, à la Russie, à la Prusse, puis à l'Allemagne qui va se réunifier au 19e siècle, un traité de la réponse prussienne puis allemande à Napoléon qui s'appelle le Vom Kriege. Donc il s'agit de faire mieux que Napoléon, d'où la fascination assez étrange et inquiétante que Clausewitz a pour la guerre absolue, qui n'est pas la guerre totale. La guerre absolue, c'est la guerre idéale, en quelque sorte. Non pas un simple concept, comme disait Raymond Aron dans son livre sur Clausewitz en 76, mais une réalité. La guerre absolue, c'est une guerre idéale, une guerre qui serait conforme à son concept, c'est-à-dire où les deux adversaires montent aux extrêmes où le conflit est absolument symétrique. Ce point de référence de la guerre absolue oriente l'ensemble des guerres dans l'esprit de Clausewitz. Et ça, c'est un petit peu effrayant.
Vous disiez tout à l'heure que René Girard comprenait mal en fait le phénomène djihadiste par rapport au 11 septembre. Est-ce qu'il avait pensé, par exemple, puisque vous avez prononcé le mot guerre totale, est-ce qu'il avait, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, pensé le caractère de la guerre totale, ce qu'il y a eu sur le front russe, qui était une guerre totale, guerre d'extermination, guerre guerre totale.
Là, vraiment, Stalingrad était un modèle exemplaire de guerre totale. Là, on est vraiment dans une déflagration.
Et on l'a en Ukraine, sur certaines villes. Hein.
Oui.
Les villes entièrement rasées.
Absolument. Là, on est dans la guerre absolue qui suppose une, comme disent les Américains, une mutually assured destruction, c'est-à-dire une destruction assurée des deux côtés, c'est-à-dire, grosso modo, une apocalypse. Non pas une guerre absolue, mais une guerre totale, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a là une volonté d'exterminer l'adversaire. Et dans la guerre de Stalingrad, on a l'entièreté de deux pays totalement mobilisés pour un choc titanesque. Donc là, on voit ce que ça a donné. Et ces guerres totales, ces guerres de renversement, dit Clausewitz, sont des figures de la guerre absolue. Elles sont toujours orientées par cette guerre idéale que le dieu de la guerre, Napoléon, aurait incarné aux yeux de ces Prussiens émerveillés et en même temps plein de ressentiments. Donc la guerre totale a eu lieu effectivement à Stalingrad. On voit bien que ça n'a pas été une guerre absolue, puisque l'Europe s'est quand même relevée de ses ruines.
Un mot, et peut-être un pas de côté, Benoît Chantre, la guerre juste. Qu'est-ce que dit l'Église sur la guerre, en fait? Est-ce qu'on a une manière de la légitimer? Il semblerait qu'aujourd'hui, on soit plus dans la logique de ne pas la faire, plutôt que de la faire pour de bonnes raisons.
Oui, alors là, j'ai pas repris cette question dans les...
On ne sait pas ce que l'Église pense de la guerre. Évidemment que elle n'en pense pas du bien, forcément, mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir comment la faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion sur le sujet?
Ça, je ne saurais pas vous le dire précisément, sinon j'ai le sentiment que, pour l'instant, ceux qui, au sein de l'Église, s'intéressent à cette réalité, d'abord, sont assez peu nombreux. On écrit assez peu, oui, sur cette question. On a reparlé, au moment des conflits d'Irak, de Saint-Augustin, du droit dans la guerre et du droit de la guerre juste. Ces questions ont été agitées. Il me semble que l'Église, et l'Église catholique en premier lieu, se calent quand même sur le consensus du droit international, c'est-à-dire cette interdiction de la guerre offensive qui fait que seules les guerres défensives sont autorisées. C'est une avancée du droit international d'après...
Et opposée à la guerre préventive.
Alors justement, c'est parce que les guerres défensives sont seules autorisées que les guerres offensives sont interdites par le droit international, décision sur laquelle se cale le réalisme chrétien, on a des stratégies perverses à la Poutine qui consistent effectivement à faire des guerres préemptives, c'est-à-dire
à devancer l'histoire.
Absolument, à dire qu'on agit contre une agression qui est déjà là.
Merci beaucoup Benoît Chantre d'être venu ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Achevez Clausewitz aux éditions Grasset avec René Girard, bien sûr, et puis on aura l'occasion de parler de cette figure importante de la pensée. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.